Via Monrovia, 22h à Niamey. Bienvenue dans Sel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sel Plus, des dizaines de milliers de sinistrés au Niger suite à d'importantes inondations. 4 habitants de la planète sur 10 vivront en Afrique d'ici la fin du siècle, selon un rapport de l'UNICEF.
Aujourd'hui, le continent le plus peuplé, c'est l'Asie, mais c'est en train de changer de manière extrêmement rapide.
Virus, Ebola, l'épidémie est largement sous-évaluée selon l'Organisation mondiale de la santé. Et enfin, nous verrons comment le Mali se prépare à contrer le virus. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, à ce micro Jean-Roger Billon,
Sarah Diaby.
On commence par le Congo.
Le M23 accuse l'armée congolaise d'avoir exécuté 10 prisonniers de guerre. Dans un communiqué, les ex-rebelles se déclarent totalement affligés et réclament une enquête internationale.
Oui Sarah, ces 10 personnes seraient tous des ex-membres du CNDP et auraient été tués par les renseignements militaires congolais à Kinshasa entre juillet et août 2014. Ces accusations sont niées en bloc ici par Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais.
C'est totalement faux, ça n'a même pas de sens. Même si on avait arrêté Makenga ou Ntaganda, il n'aurait jamais été exécuté. Aucune source ne confirme cet incident. En attendant d'avoir des renseignements plus précis, nous savons qu'il y a eu des arrestations d'éléments de l'ex-mouvement M23 qui n'existe plus dans le territoire de Massissi, qui essayaient de reconstituer des réseaux criminels. Ils ont été présentés à la presse à Goma. Tout s'est passé le plus normalement du monde et ils sont à la disposition de la justice militaire.
Au Libéria, des patients atteints du virus Ebola sont activement recherchés après l'attaque d'un centre d'isolement en Monrovia au cours du week-end.
Et nouvelle conséquence de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso a décidé de reporter en raison d'un défi sanitaire une réunion prévue début septembre de l'Union africaine consacrée à l'emploi et à la pauvreté.
Au Sénégal, reprise du procès de Karim Wade ce lundi. Le fils de l'ancien président est jugé pour enrichissement illicite. Karim Wade est en détention préventive depuis avril 2013. Il est accusé d'avoir illégalement acquis 178 millions d'euros.
Et toujours au Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop est paralysé par une grève illimitée. Les étudiants refusent toute discussion avec le gouvernement après la mort d'un de leurs, Bassirou Faye, sur le campus la semaine dernière.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Ukraine, de nouveaux combats ont opposé ce lundi les rebelles pro-russes à l'armée de Kiev dans l'est du pays. Pendant ce temps, en Allemagne, les pourparlers entre Ukrainiens et Russes n'ont pour l'heure abouti à aucune avancée sur un cessez-le-feu. Jacques Aristide.
En effet, situation toujours très tendue sur le terrain. D'après le porte-parole militaire ukrainien, les insurgés pro-russes ont, je cite, « tiré sur une colonne de réfugiés près de Lugansk avec des lance-roquettes multiples et des mortiers livrés par la Russie ». Il y a eu de nombreux morts civils, a déclaré Andriy Lysenko, et d'ajouter que 9 soldats ukrainiens ont été tués et 20 blessés en 24 heures au cours de l'opération militaire des forces gouvernementales pour reprendre aux rebelles leur bastion de Lugansk. Sur le front diplomatique, la rencontre depuis dimanche à Berlin des chefs de la diplomatie ukrainien, russe, français et allemand n'a rien donné de concret sur un arrêt des combats et un règlement politique, comme confirmé ce lundi par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a toutefois affirmé qu'un compromis a été trouvé concernant l'envoi d'aide humanitaire en Ukraine. L'agence Interfax rapporte que des représentants du Comité international de la Croix-Rouge escorteront les convois humanitaires russes en Ukraine après avoir été passés au crible par les gardes frontières et les douaniers ukrainiens. En visite à Riga en Lettonie, la chancelière allemande Angela Merkel a appelé au maintien des sanctions occidentales contre la Russie pour, dit-elle, empêcher une aggravation de la situation en Ukraine.
Merci Jacques. Un nouveau bilan du conflit israélo-palestinien. Plus de 2016 Palestiniens, dont 541 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza depuis le déclenchement de l'offensive israélienne contre le Hamas début juillet. C'est ce qu'indique le ministère palestinien de la Santé. Côté israélien, on dénombre 67 morts, dont 3 civils.
Depuis une semaine, Israéliens et Palestiniens poursuivent des négociations au Caire pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu durable. Une trêve qui expire ce soir à minuit. Le premier ministre ministre Benjamin Netanyahou prévient déjà qu'Israël se tient prêt à toutes les éventualités et frapperait avec force en cas de reprise des tirs de roquettes palestiniens.
Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Bion à ce micro.
Sarah Diaby.
La suite de Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel+, sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission avec les inondations au Niger qui dévastent le pays et qui ont déjà fait 12 morts et des dizaines de blessés. Des inondations qui ont aussi fait plus de 27 000 sinistrés selon le gouvernement. Toutes les régions sont affectées, hormis les zones très désertiques de Diffa dans l'est et d'Agadez dans le nord. Les autorités ont lancé un appel international à la solidarité en faveur des sinistrés. Il y a 2 ans, des inondations avaient fait des dizaines de morts et environ 500 000 sinistrés. Les dégâts avaient alors été évalués à un peu plus de 198 millions de dollars. Pour faire le point sur les conséquences de la présente catastrophe, Jacques Aristide s'est entretenu avec le professeur Chérif Sako de l'université de Niamey.
En ce moment, le gouvernement a fait le point. C'est déjà une très bonne chose de donner l'information, mais aussi c'est une autre chose que d'avoir les moyens pour pouvoir y faire face. Je crois que le gouvernement a demandé la solidarité nationale et internationale. Le pays vit des épreuves difficiles. Vous savez, en dehors du fait que l'eau est la première ressource économique, étant donné que la majorité de la population, plus de 85%, vit à cause de l'eau sous pluie. Donc, quand il n'y a pas d'eau sous pluie, c'est un problème. Mais quand il y a aussi trop d'eau causée par la pluie, c'est un véritable problème parce que ça détruit les récoltes et ça détruit aussi les habitations, ce qui va faire à ce que la population pauvre va dépenser une bonne partie des revenus à la réhabilitation de leur demeure et pour avoir le matériel perdu.
Le gouvernement a déjà mis plus de 200 tonnes de vivres à la disposition des populations touchées. Est-ce suffisant ?
C'est insuffisant face à l'ampleur de la situation. Personnellement, j'avais été secrétaire permanent du système d'alerte précoce. Il y a une cellule de crise qui est logé au niveau de la primature pour assurer la coordination. Il est important d'abord de voir à 3 stades cette question. La question d'urgence, il faut y faire face et le pays est confronté à plusieurs préoccupations. Je crois que ces prochaines années, il faut mettre beaucoup l'accent sur ces 3 niveaux pour pouvoir juguler la situation. Dans la question du bien-être, il y a la pauvreté, le manque, il y a l'inégalité, mais aussi il y a la vulnérabilité. À ce niveau, les catastrophes constituent un facteur d'intensification de la vulnérabilité des populations pauvres.
Le professeur Chérif Sako de l'université de Niamey. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel+, sur la Voix de l'Amérique et sur le 97.5 FM à Zinder, au Niger, sur la radio NIA. L'UNICEF vient de se pencher sur la démographie mondiale et les conclusions du rapport Génération 2030 sont frappantes. La démographie infantile en Afrique va connaître des bouleversements d'une ampleur inédite. D'ici 35 ans, l'Afrique aura enregistré 2 milliards de naissances et ce sont 4 habitants de la planète sur 10 qui vivront en Afrique d'ici la fin du siècle. Tim Ingo est spécialiste en politique sociale et économique pour l'UNICEF et elle a participé à l'élaboration de ce rapport.
L'analyse se fait pour le monde entier, mais ce dont on s'est aperçu en analysant les données pour l'Afrique, c'est qu'on a vraiment un basculement du poids démographique mondial vers l'Afrique qui se profile dans les 30-50 années à venir. Et donc on projette la population du continent africain d'ici 2050 jusqu'à la fin du siècle. Et on s'aperçoit que d'ici la fin du siècle, en fait, 4 habitants sur 10 sur la planète Terre vivront en Afrique. Alors si on prend un temps un peu plus court, donc dans les 35 prochaines années d'ici 2050, nous avons aujourd'hui à peu près 1 milliard d'habitants en Afrique. En 2050, on sera en Afrique 2,4 milliards d'habitants. Et ce basculement du poids démographique des différentes régions du monde se fait vers l'Afrique. Donc le poids relatif entre l'Asie et l'Afrique est en train de changer. Aujourd'hui, c'est le continent le plus nombreux, le plus peuplé, c'est l'Asie. Mais c'est en train de changer de manière extrêmement rapide.
Et le pourcentage des enfants sera également très important.
L'Afrique est un continent le plus jeune au monde. Les enfants de 0 à 18 ans représentent plus de 50% de la population dans la majorité des pays en Afrique aujourd'hui. Mais c'est une tendance qui va continuer sur les 35 prochaines années jusqu'à 2050. Et c'est le seul continent où la croissance démographique est telle que la population va rester majoritairement jeune. Donc si on prend les enfants et les jeunes, à peu près presque 2/3 de la population fait partie soit des enfants, soit des jeunes de moins de 35 ans. En 2050, cette structure de la population très jeune va rester, va être unique dans le monde. Ce sera le continent le plus jeune.
Une partie de ce rapport aussi s'arrête sur la survie de ces enfants, donc l'espérance de vie des enfants africains. Est-ce que vous avez quelques éléments sur ce sujet ?
Oui, alors l'espérance de vie en Afrique, elle a augmenté sur les 50 dernières années. Aujourd'hui, en moyenne, l'espérance de vie pour une personne qui vit en Afrique est de 58 ans. Mais cette espérance de vie reste considérablement inférieure à ce qui est possible dans le reste du monde. Elle est de 12 ans plus courte que la moyenne mondiale. Par contre, cette espérance de vie commence à augmenter beaucoup plus rapidement. Donc on a une population âgée qui est plus importante. Majoritairement, c'est un continent qui va rester très très jeune, avec 50% aujourd'hui de la population qui a moins de 18 ans dans un nombre important de pays du continent africain. Et ça va rester comme ça dans les 35 prochaines années.
Timingo, spécialiste en politique sociale et économique pour l'UNICEF. Nous terminons l'émission avec l'épidémie de virus Ebola, une épidémie largement sous-évaluée selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et qui se répand plus vite que les capacités actuellement mises en œuvre pour y faire face. C'est le constat dressé par l'OMS qui parle d'une totale défaillance des infrastructures. Bagassi Koura a joint à Genève Tariq Yassarevitch, porte-parole de l'OMS. Il nous parle d'abord des efforts qui sont déployés.
On continue à apporter un soutien ensemble avec d'autres partenaires aux autorités sanitaires des quatre pays touchés pour essayer de mettre en place au plus vite possible toutes les mesures qu'on connaît nécessaires pour essayer de contenir l'épidémie.
Et vous avez déclaré notamment que les capacités déployées pour faire face à l'épidémie ne sont pas suffisantes.
Pour le moment, donc, on voit qu'il y a toujours des chaînes de transmission non identifiées. Il y a toujours donc, des cas qui sont répertoriés, mais aussi des cas dont on n'a pas de connaissances. Et c'est ça, en fait, ce qu'on a essayé de dire quand on dit que c'est peut-être le nombre de cas sous-estimé. Aussi, il faut dire que cette épidémie a d'autres aspects, des conséquences économiques, sociales, humanitaires. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille tous et qu'on mobilise les ressources au niveau international pour venir en aide à ces quatre pays qui déjà n'ont pas des systèmes de santé très forts. Et en plus, donc, ils doivent faire face à cette épidémie maintenant.
Et cette situation est notamment aggravée par le fait que l'Ebola frappe dans des zones très, très reculées. Hein.
Voilà, donc c'est ça. Donc vraiment, pour essayer d'arriver à ces zones, il faut vraiment mettre en place des moyens logistiques. Il s'agit de zones très, très isolées. Il faut vraiment aussi travailler avec la population pour qu'ils comprennent qu'il faut absolument coopérer avec les autorités sanitaires. Il faut que les gens informent des cas suspects, des décès communautaires suspects pour qu'on puisse essayer donc d'apporter au plus vite possible des soins de santé aux personnes infectées parce que ça va augmenter leurs chances de survie. Aussi, s'il y a des décès communautaires, il faut s'assurer que les corps sont enterrés de manière sécurisée. Donc voilà, il faut faire tout ça pour qu'on essaye vraiment de contenir l'épidémie.
Tariq Yassarevitch, porte-parole de l'OMS. Même si aucun cas d'Ebola n'a été détecté, le Mali aussi se prépare à tenter de contrer le virus Ebola. 1 milliard de francs CFA, c'est le montant alloué au ministère de la Santé dans le cadre de la prévention du virus. Une prévention centrée aujourd'hui essentiellement autour de la sensibilisation. La correspondance de Kassim Traoré.
Depuis le 21 mars, date de la déclaration de l'alerte du virus Ebola, jusqu'à nos jours, aucun cas du virus confirmé de la fièvre hémorragique Ebola n'a été enregistré au Mali. C'est pourquoi la rencontre interministérielle a fait le point des actions menées avant de se projeter dans l'avenir. Professeur Samba Ousmane Sow, coordinateur de l'équipe rapide d'intervention contre le virus Ebola au Mali.
Au jour d'aujourd'hui, vraiment, je peux dire que le Mali est en très bonne position pour pouvoir non seulement bien monitorer une arrivée éventuelle de cas frais au Mali, mais également de circonscrire, d'empêcher une certaine propagation rapide de l'infection dans notre pays. Donc vraiment, les dispositions prises au jour d'aujourd'hui sont très très satisfaisantes sur le terrain.
La fièvre hémorragique à virus Ebola est en Guinée-Conakry. Elle a fait plus de 300 morts. Pour mieux contrôler une éventuelle propagation au Mali, des cordons sanitaires sont installés dans les localités frontalières avec la Guinée. D'autres dispositions ont été prises, comme l'installation à l'aéroport de Bamako-Senou d'une caméra thermique pour contrôler la température de tous les passagers, comme cela se fait dans certains pays voisins.
Pour une température égale ou supérieure à 38,5 degrés, ce passager va être conduit auprès du service médical, auprès du médecin qui va faire un interrogatoire approfondi et qui va en tout cas décider de la conduite à tenir pour ce passager.
Une fois arrivé ici, il y a une équipe médicale de veille 24 sur 24 qui reçoit les cas suspects pour directement les admettre dans des chambres de mise en observation.
Cependant, pour parer à toute éventualité, les professionnels de la santé demande aux populations maliennes d'adopter des gestes simples. Professeur Samba Sow.
Réduisez les cérémonies, en tout cas au cours desquelles il va y avoir des étrangers ça et là. Et comme vous connaissez maintenant les zones frontalières avec les pays concernés, donc évitez ou réduisez les voyages dans ces pays-là. Et si vous devez partir dans ces pays, prenez des mesures très très certaines de manière à ne pas se contaminer. Également, évitez les viandes de brousse, parce que les réservoirs de ce germe-là, c'est les singes, c'est les chauves-souris, c'est les porcs, etc. Donc, essayez d'éviter les rongeurs.
D'après l'équipe rapide d'intervention au Mali, la menace reste patente au Mali, tant que l'épidémie persiste en Guinée-Conakry. Il faut signaler que le virus Ebola reste la plus grande épidémie jamais enregistrée en Afrique subsaharienne. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la console, Joe Gill. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec le morceau Can't Stand It de Steel Pulse qui figurait sur la bande originale du film Do the Right Thing qui valut à Spike Lee une reconnaissance internationale. Do the Right Thing qui vient de fêter ses 25 ans. Un film à revoir absolument.
I know the times is a screwing up your mind, but we must stick together. No work for you for miles around. The family's on the verge of breaking down.
Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique, ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Try your best just not to lose it.